Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir Internet. Donc, vous êtes à l'écoute de C'est ça qu'on aime, c'est le 9e épisode. Donc ce soir, on est en direct sur YouTube, Facebook, comme d'habitude, et sur Radio MAD, donc la radio de Mademoiselle, que vous pouvez écouter sur mademoiselle.com/radio. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, ça y est, j'ai oublié, je suis perdue parce que on a eu des problèmes techniques, donc maintenant je suis perdue. Si vous pouvez réagir à l'émission, sur le chat YouTube, dans les commentaires de Facebook et aussi sur Twitter avec le hashtag MadenLive qui est inscrit sur votre écran si vous nous suivez en vidéo. Comme ça, moi je peux relayer vos commentaires à nos chers invités. Donc on va refaire les présentations. Younes, tu es développeur stagiaire chez Mademoiselle,
oui.
Donc tu t'occupes du site.
C'est ça.
Et tu codes. Donc il passe sa journée devant un ordinateur avec des lignes de code incompréhensibles et il arrive à faire marcher Mademoiselle. Globalement, c'est un peu ça. Il fait de la magie,
dans
quelque
les
part.
Lignes.
Margot, ça y est, ton micro fonctionne.
Ça y est, ça marche.
C'est formidable.
Et je m'entends.
Et ça, ça n'a pas de prix. Donc Margot, tu es lectrice de Mademoiselle depuis très longtemps.
Oui, mais on va pas dire parce que ça... je me dis, là, j'ai bientôt 23 ans. Donc on va pas le dire. Depuis mes 17-18 ans, je dirais que je lis Mademoiselle. Et en fait, je suis venue ce soir pour parler de ce que je fais, donc d'un master d'histoire recherche à Paris Diderot, et je suis venue expliquer à peu près en quoi ça consiste et quels sont les débouchés et en quoi c'est bien cool.
Super. J'ai trop hâte. En tout cas, quand tu m'as envoyé ton mail pour me dire « Salut, je voudrais en parler », j'étais là « Ok, c'est trop génial ».
Sérieux ?
Donc j'ai vraiment trop hâte qu'on discute de tout ça. C'est tellement drôle parce qu'en fait, j'ai le retour du live à genre 30 secondes d'écart. Et donc, il y a 30 secondes, tu étais en train de regarder ton portable. Et j'étais là genre « T'es sur Twitter ?» Non, plus maintenant du coup. Et last but not least, il y a Colette.
Coucou.
Bonjour.
Alors Colette, je sais pas, j'aimerais savoir le chat quel âge vous donnez à Colette. Alors je vais leur demander parce qu'ils ont 30 secondes d'écart. Alors Colette est en stage chez Mademoiselle. Et alors c'est marrant, je viens de poser la question, quel âge vous donnez à Colette? Voilà, je suis vraiment dans la... C'est une journée compliquée pour moi aujourd'hui, mais nous allons faire face ensemble. Diane te donne 19 ans.
Ah, d'accord.
26 ans, très bien, oui. Allez-y, continuez, j'ai hâte. 23 ans ?
Oh.
Genre la vingtaine, genre 19 ans.
Oh, gosh.
Alors écoutez, Colette a 14 ans. Elle est en stage de 3e chez Mademoiselle. Oh, c'est génial, j'adore. Et donc moi, tout à l'heure, hors antenne, on m'a demandé mon âge et on m'a dit... environ, pas à 20 ans. Alors j'ai 24 ans. Et donc Colette aussi a l'air d'avoir mon âge en fait. Donc,
c'est très super drôle. Bizarre.
Et donc Colette est en stage cette semaine chez Mademoiselle. Donc stage d'observation de 3e. Donc je lui ai dit, ça te dit pas de venir ce soir pour parler d'un truc que t'aimes bien et tout. Elle était là, si peut-être,
ouais.
Je sais pas et tout.
J'ai pas dit ça.
Sa maman, elle a dit ok. Alors du coup, j'étais là, super. Donc voilà, je suis très heureuse que tu sois là, Colette. Comme ça, tu peux tester cette nouvelle chose. J'espère que tu le marqueras dans ton carnet des premières fois.
Ouais.
Le premier live sur Mademoiselle.
Carrément.
Qui veut commencer? Alors, je rappelle, donc, vous parlez du sujet, donc, de comment vous l'avez découvert, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui fait que c'est un truc que tout le monde devrait tester, faire, envisager dans sa vie, tout ça.
Oula.
Vas-y, commence.
Ok, je vais commencer. Donc, moi, ce soir, je suis là pour parler de la marque Apple. Parce que j'adore Apple.
Alors, en fait, le débat commence quand Younes arrive au bureau avec
les nouveaux AirPods.
Les AirPods, donc les écouteurs d'Apple.
Les cotons-tiges, là
voilà, c'est exactement ça. Donc, qui sont sans fil, mais c'est vraiment des écouteurs minuscules, et tu te dis, mais à tous les coups, tu vas les perdre. Mmh. Et Mimi avait fait un article formidable sur tout ce qu'elle pourrait perdre aussi facilement que les AirPods, et le dernier truc, c'était sa virginité, ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, la grande question à la rédac, c'est, mais comment, pourquoi, quel est le... Il y a des casques hyper bien et tout, et toi, t'achètes des écouteurs que tu peux perdre en 3 secondes.
Ouais, trop d'arguments à donner là. Alors, premier argument, c'est qu'il me fallait quelque chose de sans fil. Parce que les fils, ça me dérange quand je suis en train de taffer. Genre, j'écoute de la musique en même temps et des fois, genre, je vais pour ouvrir la porte, me prendre un café. Et en fait, j'embarque tout mon ordinateur si j'ai un fil. Donc là, c'est super chiant. Donc il me fallait un truc sans fil. Ensuite, j'écoute beaucoup la musique avant de dormir. Et un casque, c'est gênant quand t'es dans ton lit. Tu vois ?
C'est vrai. C'est gênant.
C'est aussi un point très important. Ensuite, la qualité de la musique est vachement cool. Je pourrais vous les faire essayer ensuite après si vous voulez.
Ouais, je veux bien essayer, carrément.
Et putain de batterie, en fait. Genre, il y a trop de batterie.
Ah
genre,
oui, c'est ça. Ça marche à batterie.
Ah oui, c'est ouais, vrai.
Mais il y a une batterie énorme, en fait. Les écouteurs, genre, il y a 5 heures d'autonomie. Et t'as un petit boîtier où ranger tes écouteurs qui rajoute 20 heures d'autonomie. Donc là, genre, je les ai pas chargés depuis 3 jours.
5 heures d'autonomie, c'est pas beaucoup quand même, si.
Bah, 5 heures, en réalité, genre, mon trajet, même si j'habite loin, ça me prend moins de 2 heures. Genre, la journée, ok, je les recharge, mais ouais. Je les mets dans la boîte en 2 spi, tu vois. Et le soir, ça me prend 2 heures, donc allez, tout est pour tout, je dois utiliser 10 heures dans la journée, donc ça me dure 2 jours vraiment en utilisation intense. Donc c'est beaucoup. Mm-hmm. C'est beaucoup, beaucoup. Hein.
C'est mieux que ton iPhone, du coup.
Ouais, ça dure plus longtemps, beaucoup plus longtemps.
C'est quand même bizarre de se dire que les écouteurs durent plus longtemps que l'iPhone, quand même, au niveau batterie, non ?
Ouais,
c'est assez chelou, mais en vrai, ça demande moins de batterie, tu vois, genre un écouteur. Genre un iPhone, ça utilise de la ressource de ouf, ça télécharge des images.
Ouais, mais du coup, j'ai peur le soir de me dire, bon, qu'est-ce que je branche ? Les écouteurs, le téléphone, les écouteurs, tu vois ? Enfin, je sais pas.
Bah là, l'avantage de... Bah attends, je vais te montrer directement, ouais, ça sera plus simple.
Parce que la dernière fois que j'en ai vu un mec au bar, j'ai vraiment dit... Bah, j'étais avec un ami et il m'a dit, oh, regarde, il a des contre-tiges dans les oreilles. Non, c'est pas ça. Il a un iPhone 7. Mais... Ouais, je trouve ça assez pratique dans le sens les écouteurs fil, parce que tu te poses pas la question en fait si c'est chargé ou pas, et en plus tu les perds pas, en fait c'est ça justement les arguments. Mais pourquoi tu penses que c'est mieux
Bah j'ai toujours été, en fait, à partir du moment où j'avais acheté un casque avant ces écouteurs qui étaient sans fil, et franchement c'était super stylé, tu vois, genre c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le charger en même temps le soir. Oui, c'est ce que j'allais te montrer, la boîte. En fait, la boîte, c'est ça qui va charger tes écouteurs le soir. Tu les mets juste dans la boîte.
Donc après... Montre la boîte à la caméra, s'il te plaît. C'est vraiment un truc minuscule. On dirait, oui, tu sais, genre les trucs de fil dentaire. Voilà. C'est genre une toute petite boîte. Vraiment, je pense que ça fait la taille de ma paume de main, même pas.
Et là, t'as les petits écouteurs.
Donc les écouteurs font la taille même pas d'un pouce.
Tu vois ? Mais j'aurais tellement peur de les perdre.
Est-ce que t'as déjà failli les perdre ?
Une fois. Une fois, et c'est parce qu'en fait, genre, j'étais en train de charger un truc dans un coffre, et en fait, il y a un écouteur et encore, je suis pas sûr, je pense que mon pote, il me l'a enlevé de l'oreille. Mais en gros, je l'ai fait tomber, et j'ai un pote à moi qui l'a ramassé en me disant, ouais, tu l'as fait tomber, et j'étais en mode.
Au final, on fait peut-être plus attention à ceux-là que ceux avec les fils. Ouais. Bah, au final, donc peut-être pour ça, on les perd pas.
Sur le chat, il y a Arnaud qui disait, mais en fait, il y a certainement des trucs qui ressemblent à des AirPods, qui coûtent moins cher. Donc pourquoi acheter des AirPods ?
Bah c'est très simple d'utilisation, en fait, genre switcher entre mon ordi et mon téléphone au niveau de la connexion, genre ça se fait en un clic.
Ouais.
Ça c'est assez cool, genre j'ai pas besoin de dépareiller de mon téléphone pour ensuite les reparier sur mon ordi, donc c'est vachement fluide. Si on me les vole, la personne ne peut pas les utiliser, c'est relié à mon compte iTunes, donc il y a des avantages. Après je dis pas, il y a des trucs moins chers. Il y a aussi le fait que ce soit en fait dans l'écosystème Apple, genre j'aime beaucoup l'écosystème parce que c'est extrêmement bien connecté, les appareils les uns entre les autres, tu vois. Et à la base, je voulais en fait m'acheter la nouvelle version du casque que j'avais avant, c'était le Parrot Zig 3.
Ouais.
Et celui-ci, bah, en vrai, genre, il fallait que j'économise genre 2 mois pour me l'acheter. Et, alors que ces écouteurs-là, genre, ça m'a pris qu'un seul mois, donc c'est cool. Je les ai eu plus vite. Mais en fait, des trucs moins chers, souvent, je pense que ce serait moins qualitatif.
Ouais, alors qu'en fait, enfin...
Ça dépend, tu vois, genre, c'est que ça dépend. On va dire que pour du moins cher, va falloir faire une grosse recherche derrière sur quelle marque vraiment a un bon rapport qualité-prix. Ouais. Alors que chez Apple, je suis à peu près sûr du résultat parce que, à force d'utilisation, je sais que même si des fois je paye un peu plus cher, ils sortent pas un produit sans être sûr de la qualité derrière. Sauf pour le dernier MacBook, mais ça c'est
ça, oui, c'était une erreur.
Là, la touch bar en fait, elle a eu de gros bugs, des bugs de carte graphique, plein de trucs en fait, plein de soucis au niveau de au moment de la sortie, donc c'était pas trop au point.
Mm-hmm. Et donc, est-ce que tu fais partie de ces gens qui sont fans de Apple depuis longtemps et qui du coup veulent absolument avoir tout genre le Mac, l'iPhone, les AirPods? Je sais pas ce qu'ils ont sorti d'autres, les iPods, les
iWatch.
Non, ça va pas faire si longtemps que ça en fait. Ça va faire genre 2 ans et demi, presque 3, je pense, parce que j'ai eu mon premier Mac en arrivant dans mon école. Parce que j'avais le choix soit prendre un Windows super cher ou un Mac qui était aussi cher. Moi, je me suis dit, on va tester le Mac. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à kiffer la marque. Genre, elle a plein de défauts à droite à gauche, que ce soit au niveau du traitement de ses employés, que je trouve souvent un peu chim, tu vois, genre plein de trucs qui sont pas forcément valorisants, mais au niveau du produit, j'ai absolument rien à dire. Au contraire, ouais, j'aimerais bien me recréer l'écosystème Apple parce que c'est confortable en fait. Genre, t'as un problème avec ton téléphone, tu le ramènes au Genius Bar, il te le change. C'est extrêmement rapide. Après, je vais pas faire de placement de produit. Hein.
C'est un peu ce que tu fais en même temps, c'est pas très grave. La dernière fois, Clémence est venue parler du Fitbit pendant une demi-heure. Donc, si vous avez loupé cet épisode, Clémence qui parle de sa passion pour Fitbit et de comment ça compte ses pas, et ça la réveille le matin en vibrant, et du coup, elle est là genre, oh, super, ça vibre à mon poignet, je suis réveillée. Donc, voilà. Et du coup, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as eu un produit Apple ?
Mon Mac en l'occurrence,
ouais.
Mais je me souviens de la première fois où Apple m'a fait prendre une décision qui n'avait aucun rapport dans ma vie. Genre, c'est pour le choix de mes études. Genre, j'étais au salon de l'étudiant et je regardais tous les stands et j'en voyais un avec un énorme Mac. Donc je me suis redirigé vers ce stand, je me suis inscrit dans l'école et j'ai atterri chez Mademoiselle. C'était un raccourci extrêmement rapide, mais Apple change votre vie. Genre...
Conclusion, Apple vous emmène très chez bien. Mademoiselle.
Exactement.
Très bien. D'accord. Est-ce que Colette, tu veux présenter ta web série ?
Alors, oui.
Alors, rapproche-toi de ton micro. Alors. Tu peux rapprocher ta chaise, je pense, parce que tu as l'air loin.
Je voulais parler d'une web série qui s'appelle Before. Une web série qui est disponible gratuitement sur YouTube. Et donc, c'est une web série en 3 saisons qui sont sorties. Et il y a une 4e qui se prépare normalement. Mais pour qu'elle se prépare, il faut qu'elle soit vue. Donc du coup, c'est pour ça qu'il fallait que j'en parle. C'est une web-série vraiment géniale, vraiment super cool et hyper, hyper prenante. Les personnages... Alors, il y a 3 personnages principaux.
Ouais, alors explique, c'est quoi l'histoire de la web-série ?
En fait, ça s'appelle Before. C'est 3 amis... qui se retrouvent avant les soirées. 3 meilleurs amis qui se retrouvent avant les soirées pour faire des jeux, tout ça. Et,
Before.
Ouais, des before.
C'est ça. Before. Ils ont quel âge, à peu près ?
Ils ont,
des ados ou...
Non, ils ont 20, 25 ans.
D'accord.
Et donc, au début, c'est assez léger, assez drôle, et plus les épisodes arrivent... Donc, c'est une fille et 2 gars. Et plus les épisodes avancent, et plus ça devient un peu plus complexe. Et donc, c'est en 2 saisons.
Ok,
voilà.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a plu dans cette...
Alors, il y a 3 acteurs qui sont vraiment géniaux. Donc, c'est Cécilia Mérida, Vincent Leplat et Camille Landru, je crois,
ouais.
Qui sont vraiment... Ils jouent super bien. C'est hyper ils sont hyper attachants et vraiment super drôles. La musique est top. Elle est super bien choisie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand une web-série commence, tu vois, que les premiers épisodes sont hyper drôles et faciles à regarder. Donc, c'est des petits épisodes de 3-4 minutes. Et plus on avance Et plus on avance dans la web-série, il commence à y avoir des grandes questions et ça devient de plus en plus complexe. Et du coup, là, ils nous ont arrêtés au dernier épisode de la saison 3. Et c'est horrible. C'est vraiment...
Est-ce que t'es totalement dans l'attente? C'était un...
Ah oui, complètement. C'est horrible, c'est horrible.
Et du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être plutôt de la première saison et nous dire un peu ce qui se passe? Genre, si y a, du coup, comme tu dis, un espèce de fil au fur et à mesure que tu t'attaches au personnage et qu'il y a des cliffhangers, comme on dit, ouais. Comment on dit en français? Désolée,
je crois pas que ça se dise en français.
Ah
je
ouais
pense qu'on dit tout le temps cliffhanger.
Ok, bon, cliffhanger. Comment traduire
Comment expliquer
ouais, juste qu'à la fin d'un épisode ou d'un chapitre de livre, etc., c'est qu'on te laisse sur ta fin et tu veux absolument lire la suite ou regarder la suite.
Je comme dans Game of Thrones aussi.
Ah ouais, ouais, mais je déteste ça. Ça
la fin des saisons de Game of Thrones, à chaque fois, j'ai peur parce que je me dis oh non, mais il va falloir attendre un an après un an.
J'ai l'impression de me faire baiser à chaque fois.
Et du coup, donc, dans cette première saison, qu'est-ce qui t'a plu? Donc, tu parlais des personnages.
Ouais, donc trois personnages, pardon, donc trois meilleurs amis, je l'avais déjà dit. Une fille qui est super drôle, un peu complètement libre en fait, elle fait ce qu'elle veut. Et deux gars qui sont aussi très potes. Et il y a des guests assez cool, genre Jigme, tout ça, enfin des youtubeurs un peu connus. Et
alors Jigme, tout ça, moi j'ai pas les refs. Alors dis-moi.
Andy raconte, tu vois.
Andy raconte, ok.
Voilà. J'ai des youtubeurs comme ça.
Ok.
Et donc on va découvrir qu'il y en a un qui est amoureux d'une fille.
Un des trois.
Okay. Qui est amoureux de la fille. Et ça commence comme ça et ça devient super compliqué. Donc c'est un groupe de trois amis et ils se sont liés d'amitié dans une situation un peu improbable, je ne vais pas raconter. Mais c'est Cécilia, l'actrice qui joue Chloé, qui va leur dire... ça vous dit, on fait un groupe à trois d'amis. On fait un trouple, du coup ils demandent ce que c'est quoi un trouple? C'est un groupe de trois amis qui sont super potes, qui se voient hyper souvent, mais qui n'ont pas le droit de se pécho. Donc c'est ça.
Donc c'est pas vraiment un trouple, parce qu'un trouple c'est
oui.
Trois et couple. Sévère,
hein. J'ai appris ça après. Et du coup c'est comme ça, donc ils s'appellent le trouple, et ils n'ont pas le droit de se pécho, mais voilà.
Donc il y en a un qui est amoureux de la fille du groupe,
ça commence ça comme ça, et après on apprend de plus en plus de choses, mais c'est vraiment super bien fait. C'est hyper frais, hyper jeune, et c'est toujours super drôle. Voilà.
Ça, tu le vends bien en réalité. Parce qu'au début, genre, je comprenais pas trop l'histoire, j'étais en train de tâter, en train de me dire est-ce que je regarde, est-ce que je regarde pas, mais si ça dure 4 minutes, que c'est drôle, bah ouais, en fait.
Mais par contre, je crois pas, enfin, c'est quoi le titre?
Ça s'appelle Before, mais tapez pas le Before, parce que vous allez tomber sur le Before du Grand Journal et c'est pas du tout ça. C'est Before sur la chaîne.
Le Grand Journal, je crois que ça n'existe plus, je crois.
Et
le Grand Journal de Canet.
Je sais pas.
Encore un peu quand même.
Je suis pas sûre.
Maintenant, il y a le Gros Journal.
Ah oui, il y a le Gros Journal.
Oui, si, il y a le Gros Journal, le Grand Journal et le Petit Journal, ils sont encore là, mais c'est
non, le Petit Journal, c'est le quotidien maintenant.
Bah le Petit Journal, ça continue.
Oui, avec Cyril, oui.
Et oui.
Ah oui, non mais j'avais...
Donc c'est juste qu'en fait les animateurs phares sont partis, donc du coup on a l'impression que ça n'existe plus.
Oui, mais c'est ça.
On peut dire que ça n'existe plus.
Donc sur internet, vous tapez, enfin sur Google, vous tapez Before Web Série et vous allez trouver leur page Facebook directement. Et du coup, donc là, est-ce qu'on sait quand sortira la saison 4?
Alors en fait, ils galèrent carrément à trouver de l'argent. Ils ont fait un crowdfunding pour la troisième saison,
ouais,
qui a complètement raté parce que c'était vraiment, c'était pas assez connu et c'était un peu, c'est vraiment une grosse somme. Du coup, ils ont quand même réussi à faire la saison 3 sans argent. Je sais pas comment ils ont fait.
Beaucoup d'aide.
C'est ça. Et du coup, ils ont fait la saison 3 et là, ils se démènent pour faire la. Je sais pas si on dit de se démènent.
Si.
Pour faire la saison 4 et ils ont besoin que ça soit un maximum vu et vraiment regardez là, vous allez pas le regretter, c'est sur la chaîne YouTube du Rendez-vous à Paris. Voilà.
Le Rendez-vous à Paris, ok, je vais chercher cette chaîne YouTube tout de suite. Comme
qui
ça
fait
je
d'autres petites web-séries, mais c'est vraiment, Before c'est vraiment la meilleure.
Ouais, en plus ça a l'air d'être bien, genre c'est des images de qualité, ouais. Après je regarde pas la vidéo pour l'instant, mais... Juste au niveau, comme ça s'appelle, au niveau qualité, genre c'est vraiment, ça se voit qu'ils ont investi
du temps. Et puis c'est intéressant les formats à 3-4 minutes, je trouve, parce que c'est souvent ces formats-là auxquels on vous invite à grand.
C'est Internet qui lance une vidéo sans mon accord. Du coup, vas-y, continue, pardon.
Non,
mais tu poses une question, non?
Toi, tu disais c'est intéressant les vidéos de 3-4
oui,
minutes.
Oui, je disais c'est intéressant les formats. C'était pas une question, j'ai juste dit je trouve ça intéressant les formats 3-4 minutes qui marchent bien parce que c'est vraiment bien entraînant et tout de suite on peut se prendre au jeu. Et on me dit bon, allez, encore un. Enfin, c'est un peu comme Kaamelott au final. Tu dis bon, je regarde deux, puis au final, oh mince, je suis à saison 3, j'en ai regardé 350. Et c'est un peu, j'aime bien ce format-là. Je trouve que c'est, ça marche bien.
Ouais, c'est super rythmé.
Voilà, c'est ça, c'est souvent rythmé.
Et tu disais qu'il y avait une invitée qu'on connaît bien chez Mademoiselle,
oui.
C'est Fanny.
Ouais, c'est Fanny, alias Fanny Fick, et qui joue la copine d'un gars du trouble, en fait. Donc elle joue son rôle-là, on la voit pas beaucoup, mais...
Est-ce que c'est la copine du gars qui est amoureux de la meuf du trouble?
J'allais poser la même question. Ne réponds pas.
On est dans le suspense maintenant. Ah ah, vous êtes accroché. Maintenant, vous devez regarder la série pour savoir.
On a cliffhanger.
Et à part Andy raconte, il y a qui du coup?
Il y a Jigme.
Mais je connais toujours.
Je ne sais pas qui est Jigme.
Je ne sais pas non plus.
J'ai vu, il y avait le mec de. Bon, je vais dire du Morning Live. Mais,
ah, c'est chaud!
Ouais, non, c'est chaud, sa mère, de sortir ça. Le pote de Michael Youn, là.
Vincent. J'allais dire Lacoste, mais c'est pas du tout ça.
Non, mais on voit le visage, tu vois. C'est... Attends.
Ah là là, je suis perdue.
Tu parles de qui, là?
Alors, j'ai vu sa tête, tu es vraiment, je pense, Vincent de Zania. Tu es vraiment trop jeune pour connaître le Morning Live. Allez. Je pense que je suis pas sûre que t'étais née quand c'était encore à l'antenne
à
la télé.
Mais je ne
suis pas sûre. Vraiment, je doute. Hein.
C'est pas 2004 quand même.
Je suis née en 2002. Voilà.
Ah oui,
c'est
ah
dit.
Oui. Ouais, il y a peut-être 2 ans en fait. Ouais,
alors je vais vérifier.
On est vraiment vieux. En fait.
Ah là là.
2002.
Ouais. Jusqu'en 2002.
Wow. Ah oui.
Tu es l'héritière du
Morning Live. Jusqu'au début 2003, pardon.
Ah, donc, ça plus vieux, enfin plus jeune.
Putain, j'avais 8 ans et je regardais ça n'importe quoi.
Ouais. Je regardais ça juste avant d'aller
c'est
à l'école.
C'est vrai qu'on regardait ça quand on était petit.
Mais vraiment... je regardais pas trop, j'aimais pas trop. Enfin, je sais pas. Je préfère regarder Martin Matin.
C'est vrai que.
Il me pourrissait mes matinées. Mais...
Alors, il y a des gens. Sur... Alors, c'est marrant parce qu'il y a des gens sur le chat qui n'ont pas la ref non plus du Morning Live. Donc,
j'ai
je vais vous mettre.
Ah, oh, c'est chaud pour moi.
Donc voilà, en fait, c'est bien, parce que du coup, alors, il y a une web-série avec des gens que vous connaissez si vous êtes jeune, si vous regardez YouTube, et que vous connaissez si vous êtes un peu moins jeune, si vous avez regardé le Morning Live. Formidable.
Ça rassemble.
Ah, c'est marrant, parce que, donc, il y a des gens qui disent, j'ai pas la ref de Morning Live, mais il y a Mickaël sur le chat qui dit, moi, je suis assez vieux pour avoir connu l'île aux enfants. Donc vraiment, on est sur un spectre large. C'est bien.
Waouh.
Ça va, l'île aux enfants, ça te parle ? Casimir ?
Oui, oui, si. Ah, je connais la chanson
bon,
quand même.
C'est bon. Ok, on va faire une pause musicale, écoutez. Et puis on revient pour le dernier sujet de ce soir, qui est le sujet de Margot, qui va être, je pense, très passionnant. Et donc, du coup, je vous mets dans le suspense. Je fais un cliffhanger afin de vous mettre totalement dans le suspense. À tout de suite. Ah bah non, parfait, parce que ça commence pas au bon moment. Alors c'est dommage. Voilà.
Et you fucked up.
I didn't.
Okay.
You did again.
Thank you.
Vous venez d'assister à une expérience extrêmement étrange. C'était donc Nadea en session acoustique. Et donc Nadea, comme vous pouvez le voir, est une personne folle. Et cette session acoustique date d'avril 2011. Est-ce que Mademoiselle, c'est vieux ? Oui. Donc c'était Nadea et le morceau. Alors laissez-moi retrouver le titre du morceau que j'ai perdu parce que je viens de changer de fenêtre, parce que je suis intelligente. Nadea avec le morceau At the Moment. Voilà. Alors les gens arrivent, débarquent sur le live et ils se demandent ce qui se passe. Bah écoutez, c'est juste une personne qui grimpe sur le siège d'un piano pour chanter. Laissez-la tranquille. Voilà. Vous êtes toujours donc dans C'est ça qu'on aime. Vous pouvez toujours réagir avec le hashtag MadanLive sur Twitter et sur le chat et sur les commentaires de Facebook. On passe au dernier sujet de cette émission et c'est celui de Margot. Oui. Alors Margot, tu vas nous parler de ta nouvelle passion, si je peux dire
nouvelle
ça comme
passion,
ça.
Nouvelle passion, puisque... ça fait très longtemps quand même.
Ah ouais, ça fait longtemps.
Mais en fait, ça fait longtemps que j'aime l'histoire, mais après okay. Je vais en parler. Nouvelle passion.
Nouvelle
fait...
passion parce que tu m'as dit, on va parler de recherche.
Voilà, c'est ça, de recherche.
Voilà. Et donc du coup, toi t'es en master d'histoire.
Mm-hmm. Master 2, ouais.
Master 2 d'histoire, et donc tu as un mémoire, je suppose.
C'est ça, un mémoire de recherche.
Un mémoire de recherche.
Que je dois rendre début juin. Là, okay. De cette année.
Donc t'as déjà bien avancé, je suppose.
Bah là, je suis à pile aujourd'hui 198 pages.
Ok.
Et donc en fait, ça c'est 198
donc,
en interne.
Donc Inès vient de faire, tu sais, genre sa poitrine a fait un bond. Genre quoi, 198
jamais
pages
ma vie,
comment
j'ai
on fait
ça et je le ferai jamais quoi.
Mais après, c'est sur un sujet qui te passionne, qui te transcende, tu vois.
Je pourrais pas faire 198 pages sur Apple. Hein,
mais sur Apple, je suis sûre que tu pourrais faire. En fait, tu te rends pas compte, mais sur 2 ans, on peut écrire de.
Donc vas-y, raconte-nous d'où ça vient.
Donc en fait, d'où ça vient, bah, je suis désolée, ça risque d'être un petit peu long comme sujet,
vas-y.
Je ne sais pas.
On est prêts.
Mais, vous êtes prêts. Bah, en fait, moi, j'ai toujours, mes parents, ils m'ont toujours un petit peu poussé, pas poussé, mais on aimait beaucoup la culture avec mes parents. Donc en fait, ils m'emmenaient tous les étés voir des musées, voir des régions. Donc c'était pas forcément des musées, mais au moins des endroits, des zoos, etc. Donc j'ai toujours cultivé une certaine... passion entre guillemets du patrimoine, ouais. Surtout français, et en fait dès cette époque j'adorais écrire, et dès que je revenais j'écrivais des comptes rendus de ce que j'avais vu dans des zoos.
Ah ouais,
ou... ouais, mais vraiment toute jeune, et j'aimerais tellement retrouver ce carnet que j'ai perdu pendant un déménagement.
Ah mince.
Et même dans des jeux vidéo, quand je faisais des jeux vidéo qui me transcendaient, j'écrivais, je faisais des comptes rendus. Enfin, très rapidement, j'ai adoré écrire, rechercher et voir du patrimoine, entre guillemets. Donc, je me suis orientée au début dans quelque chose de scientifique parce que je voulais être vétérinaire ou paléontologue. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était pas possible. J'étais très mauvaise en maths, j'étais très mauvaise en sciences physiques, etc. Donc, en fait, ils m'ont dit en seconde, il vaut mieux que tu partes de ce lycée parce que c'était un lycée scientifique et que tu fasses littéraire. Et okay. Je me suis dit, bon... oui, en effet, je pense que c'est mieux pour moi. Et là, j'ai bien réussi, etc. Donc, j'ai fait un bac L. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? J'aime bien écrire, j'aime bien les animaux, j'aime bien l'histoire, etc. Et on m'a conseillé, bah, fais lettres et arts. Enfin, il y a un petit peu tout dedans. Mm-hmm. Donc, j'ai fait une première année, donc une licence 1, lettres ouais. et arts. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Enfin, j'avais beau avoir des bonnes notes, etc. Je me dis, non, il y a quelque chose qui va pas.
Ouais.
Il manque vraiment. J'arrive pas à l'exprimer à mes parents. J'ai dit non, vraiment, je sais pas. J'ai 15, mais pourtant, j'y arrive pas. Enfin, il y a quelque chose qui manque. Alors, comme j'ai eu les équivalences, je suis passée directement à L2 d'histoire. Et là, ça a été la découverte de ma vie, quoi.
Ouais.
Donc, en fait, la licence d'histoire, ils te donnent des sujets. Principalement, ils te donnent des sujets. Il faut que tu fasses des exposés. Donc il faut que tu fasses un petit peu de recherche, mais c'est surtout des livres que tu dois lire et que tu dois faire un compte-rendu et des exposés d'une demi-heure. Et au début de l'année, t'es comme ça, tu lis ta feuille, ils me disent « non, c'est pas bon », puis à la fin, tu poses ta feuille et tu parles.
Ouais.
Et donc ça développe vraiment la communication, etc. Et après la licence, quand j'ai eu ma L3, je me suis dit « bon, qu'est-ce que je fais ?» Je pense que je vais continuer en master d'histoire-recherche. Et là, c'était un espèce de choc au début. Enfin, parce que j'avais
alors
toujours
quand tu décides déjà de décider de faire de la recherche, parce que c'est un truc qui est un peu flou. Enfin, moi personnellement,
oui, voilà.
Je sais pas en quoi
c'est
ça consiste.
Ça, en fait, c'est.
On va en parler.
Voilà, c'est ça. En fait, je me suis dit, c'est un master d'histoire. J'avais pas vu le. Enfin, ça, mon master, il s'appelle Civilisation et Histoire comparée.
Ouais.
Donc je me disais, bon, on va continuer de faire de l'histoire. Je vais avoir un master d'histoire. Et puis j'arrive, je vois l'emploi du temps. Enfin, il y avait quasiment pas d'heures de cours. J'étais habituée à 25-30 heures. Et là, bim, même pas 10 heures. Je suis, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi ?
Ouais.
J'arrive en cours, ils nous parlent de méthodologie, de recherche et tout. Je comprenais pas. J'avais pourtant un directeur de mémoire. Il me disait, bah, il va falloir que tu fasses un mémoire, en fait. Et au début, j'avais demandé un sujet, parce que moi, je voulais travailler sur la bête du Gévaudan, parce que c'est une légende, enfin, pas une légende, hein, c'est quelque chose de vrai. Je trouvais ça passionnant, l'histoire policière, entre guillemets, qui menait l'animal. Il m'a dit, non, mais ça, c'est traité des centaines et des centaines de fois, laisse tomber ce sujet, moi, je vais t'en trouver un, enfin, qui est en rapport avec l'animal.
Ouais.
Personne, enfin, très peu d'historiens ont travaillé sur l'animal exotique. Donc, en fait, l'animal exotique, c'est... tout ce qui est girafe, lion, tout ce qui n'est pas chien et chat. Voilà.
Exotique à notre pays, en gros.
Voilà, c'est ça. Les pays lointains, les forêts tropicales ou désertiques, ouais. Etc. Et j'ai dit, oui, d'accord, mais ils n'en avaient pas à l'époque moderne, parce que moi, je voulais vraiment faire à l'époque moderne. Il m'a dit, si, tu verras. Il y a tellement de choses que tu pourrais partir sur une thèse là-dessus. Et j'ai dit, bon, d'accord. Et je prenais mes cours, je disais, mais ça n'a rien à voir avec avant, on ne me demande plus d'exposer. Enfin, j'étais un peu perdue, enfin vraiment. Et d'ailleurs, la moitié de ma promo est partie.
Ah
ouais, vraiment, la moitié.
Vous étiez combien ?
On était, je ne sais pas, une petite centaine, et là, en M2, on est 30.
Ok.
C'est un peu un choc, en fait, parce qu'on ne te prend pas par la main pour autant en licence, mais on te dit ce qu'il faut faire. Et là, c'est débrouille-toi maintenant, tu es autonome. En fait, c'est vraiment un master d'autonomie. Si tu n'as pas décidé de te prendre en main le matin, de te lever à 8h et de rentrer de la bibliothèque à 19h, c'est que tu n'as pas compris la recherche, en fait.
Ok.
Mais je vais en parler. En fait, il m'a donné un conseil, parce que lui, il ne connaissait pas trop le sujet, il m'a dit « va à Versailles et demande ». Les animaux exotiques, la ménagerie. Ouais. Alors j'arrive à Versailles, je me dis waouh, c'est trop beau, j'ai un peu profité, j'avoue. J'ai un peu profité, etc. Et je demande à un guide, je dis excusez-moi, à la ménagerie de Versailles. Ils me disent oui, bah, la ménagerie de Marie-Antoinette, quoi, elle est là-bas, au petit Trianon. Je fais non, moi on m'a dit à gauche, au canal, à gauche. Il a regardé, il a fait, il n'y a pas de ménagerie. Il se moquait de moi, il me disait, elle est bête, elle. Il fait, ouais, bah à gauche.
Ouais.
Et puis, je suis tombée sur l'endroit où absolument personne n'était allé, en fait. À Versailles, en fait, tu vois, quand il y a le grand canal. Enfin,
voilà. Alors, moi, je
ne
vois
canal.
Pas du tout Versailles.
T'as pas la ref.
Non, j'ai pas
tu
la
vois, le, enfin, est-ce que vous êtes déjà allé à Versailles ou pas ? Le palais des glaces qui est là. Là, il y a le grand parc, tu vois, avec le canal. Et tu dois aller tout au bout du canal. Et à gauche, tu vas t'enfoncer dans la forêt. Et là, tu tombes sur des ruines. T'as l'impression de tomber sur un autre univers. Et là, je me suis dit, ça doit être ça. Mais j'ai dû marcher, franchement, 4-5 km. Hein, pour
on
y
dirait
arriver,
un roman d'heroic fantasy. Tu sais, t'es arrivé,
oui,
en fait, il y a une épée et tu es Excalibur,
oui,
tu es le roi Arthur.
D'ailleurs, mon père était avec moi et il se moquait un peu de moi. Il avait pris un bâton, il a dit, punaise, j'ai l'impression qu'on va rendre l'anneau, tu vois. Tellement c'est long, tu vois. Et je dis, ouais, mais je suis sûre que c'est par là. J'ai regardé les plans, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une immense ménagerie qui était presque aussi grande que le château d'origine. Parce qu'il y avait un château dans la ménagerie. Et je me suis dit, ok, je vois ce qu'il veut dire, en fait. L'animal exotique avait une place vraiment prépondérante.
Ouais.
Et d'ailleurs, une petite anecdote là-dessus. Dites, le chemin que j'ai fait, moi, la fontaine, on l'a fait, et c'est paumé. En fait, quand Louis XIV a fait la ménagerie, donc en 1660, tout le monde était invité pour la voir, etc. Et je passe rapidement, j'essaie de vulgariser un petit peu parce que c'est compliqué, mais Jean de La Fontaine voulait avoir la ménagerie Et en fait, mais vraiment, parfois aux archives, je rigole, mais toute seule, les gens me regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a tellement des choses drôles, je vais raconter des petites anecdotes avant de parler. Cool. J'ai Jean de La Fontaine, au début, il écrit, et tu vois qu'à la fin, il est énervé de sa journée, et puis il raye à la fin et tout.
Parce que, attends, tu lis les journaux de Jean de La Fontaine.
De Jean de La Fontaine, des gens qui ont écrit.
Trop bien.
J'ai lu, par exemple, je prenais mon papier, j'étais là, c'est Louis XVI qui a écrit, quoi. Ça faisait bizarre, si on disait.
Ouais,
d'ailleurs, il se prend pas la tête. Mardi, rien. Tu te dis, bon bah, ces journées n'étaient pas très rythmées. À chaque fois, il écrit souvent rien.
Enfin, okay. C'est fou ça.
C'est fou, ouais. On se demande ce qu'il fait d'ailleurs.
Ah, c'est trop bien. Ah, j'ai trop. Voilà, ouais. Tu m'as passionnée. Ça y est, j'ai trop envie d'aller voir les journaux de Jean de La Fontaine.
Mais en fait, Jean de La Fontaine, il écrit. J'ai voulu aller voir les animaux de Louis XIV. C'était, en fait, j'ai pas voulu prendre les barques parce qu'il a voulu, je sais pas, faire son hipster, montrer que la marche était bon pour la santé. Et il s'est paumé, et en fait, tout le monde l'a oublié. Et c'est ça qui l'a énervé, c'est qu'il est rentré à minuit, et tout le monde était un petit peu alcoolisé. Ils ont dit « Ouais, Jean !» et tout, « Oh, tu t'es paumé !» Mais vraiment comme ça. Il a dit « Ouais, plus jamais j'y retournerai !» Et la semaine après, il est retourné. Et c'est trop drôle parce qu'en fait, on se rend compte que c'était vraiment des humains comme nous, en fait. Et ouais. Pareil, une petite anecdote. Enfin, à chaque fois, mon copain, il veut que je lui raconte. Et le premier gorille de la ménagerie du Jardin des Plantes, ils étaient trop contents d'avoir un gorille. Ils ont dit « Ouais, enfin, on en a un !» Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus tard, en 1800 et quelques. Ils se sont dit « Ouais, c'est trop bien, on a enfin notre gorille !» Et puis au début, il marquait « Gorille calme, assez serein, il s'accommode bien. » Et puis après, ils ont commencé à marquer que le gorille était vraiment très énervé, qui tapait contre, qui voulait pas laisser son soigneur rentrer dans sa cage, et il comprenait pas. Il disait mais c'est pas possible. Pourtant, on lui balance tous les jours de la viande de cheval, il devrait aimer, etc. Et puis un jour, ils retrouvent le gorille mort dans la cage. Ils se sont dit bon bah mince. Et le soigneur qui devait s'occuper de lui, qui était parti en congé, ils ont dit mais qu'est-ce que vous lui avez donné? Bah de la viande. Il est végétarien.
Oh merde.
Donc le pauvre, en fait, ils l'ont affamé. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça qui sont assez, entre guillemets, drôles, parce qu'il faut prendre du recul quand on est en histoire. Et il faut réussir à être totalement neutre. Et c'est ça qui est parfois difficile. Donc en fait, je vais parler de la recherche pure.
Ouais.
Au début, donc en fait, dans les archives, vous avez trois types de sources. Donc il y a les sources manuscrites. Donc ça, c'est les écrits de gens qui ont fait. Donc c'est souvent, il faut mettre soit des gants ou vraiment demander une autorisation spéciale pour les consulter. Il y en a, on peut vraiment pas les voir. Par exemple, les vélins, qui sont des... en fait, ce sont des peaux de veau,
ouais,
de naissance qu'on a tué et qu'on a mis sur un parchemin. Et en fait, on a peint dessus. Et ça, c'est tellement fragile qu'il suffit d'une heure au soleil et le vélin est détruit, en fait.
Okay.
Donc on n'a pas le droit de les voir.
Il les scanne pas?
Ah bah. Si, c'est scanné. Donc, par exemple, sur Calamès, vous tapez Calamès sur Google. Et en fait, vous tapez n'importe quel animal, enfin, quasiment tous ils y sont. Vous tapez autruche et vous allez voir un vélin d'autruche de l'époque. Et ils sont scannés, oui.
D'accord.
Quand il y a une exposition des vélins, moi j'en ai vu une cette année, ils étaient presque dans le noir absolu. C'était hyper froid, il fallait mettre un manteau pour les voir. Et c'est vraiment dans des conditions, souvent, les archives, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il y a les archives manuscrites, il y a les archives imprimées, donc ça, c'est beaucoup plus facile à voir. Est-ce qu'elles sont souvent en ligne? Par exemple, les comptes rendus de Colbert, ils sont tous sur Gallica, donc la BNF, et ils sont tous sur Internet, donc c'est super pratique, les imprimer. Ouais, alors,
peut-être détail les sites, parce que je pense que c'est des sites de recherche qui peuvent être hyper intéressants pour les gens, mais que les gens connaissent pas forcément. Donc ouais. Gallica, c'est le site de la
BNF.
Bibliothèque nationale de France.
C'est ça.
Où il y a donc toutes les archives des livres depuis quand?
En fait, ça dépend. Mais en général, là, ils font en sorte qu'ils y soient tous. Et par exemple, Colbert, c'est 17e siècle.
Okay.
Et vous allez taper, je sais pas, Histoire naturelle de Buffon, il y est. L'histoire naturelle de Buffon est présente sur Gallica et c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer à BNF puisque le manuscrit y est, enfin
ouais,
l'ouvrage y est, donc c'est imprimé, c'est-à-dire que c'est pas de sa main, ça va être et ça c'est pratique. Et enfin il y a les sources donc iconographiques et matérielles. Donc par exemple moi je travaille beaucoup sur l'image, les tableaux, donc je vais tout le temps au Louvre et j'essaie de trouver les animaux exotiques dans les tableaux. Et pareil, à Versailles, les gens, parfois, ils me disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Moi, je regarde comme ça, je note. Donc là, il y a le lion, ok. Donc là, il y a une autruche, ok. Je note, je prends en photo. Et après, j'essaie de retrouver quel modèle, sur quel modèle ils se sont basés pour faire ce lion ou pour faire cette autruche. Parfois, il n'y en a pas, ça se voit. Et parfois, il y en a. Et ça, c'est la ménagerie de Versailles. Et les sources matérielles, donc ça, c'est plutôt archéologique, mais ça, c'est pas trop mon domaine, mais j'essaye. Bah, c'est par exemple les restes du monument de la ménagerie, d'accord, où je dois prendre des mesures, etc. Et que faut faire gaffe, d'ailleurs, parce que derrière, il y a la maison de vacances du président. Donc, juste derrière la ménagerie, il faut pas trop y aller, normalement, mais comme il y a personne, enfin, moi, je me suis permise de rentrer et de regarder dans le jardin, regarder vite fait la grandeur de la ménagerie, prendre des photos, etc.
D'accord. Ok, et donc c'est vraiment immense en termes de taille.
Ah oui, c'est vraiment, on se rend pas compte. Enfin, je sais pas, juste un mur comme ça, c'est peut-être grand comme la salle. Enfin, les gens vont pas le voir. Ouais. Et ça, c'était juste un tout petit bout d'un enclos, quoi. On se rend compte que le château qui était au centre était immense. Et c'est les révolutionnaires et plus tard Napoléon, en fait, qui ont petit à petit enlevé les briques et qui ont servi à autre chose. Bah, je vais peut-être raconter vite fait mon mémoire pour que les gens comprennent, parce que c'est un peu compliqué. Donc en fait, à la découverte de l'Amérique, il n'y avait presque pas d'animaux exotiques en France, ni même en Europe. Quand il y en avait, c'était des cadeaux de souverains. Donc par exemple, la girafe de Médicis, on lui a offert. Pareil, en fait, en Antiquité et au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelle des ménages, en fait, des petites ménageries, mais c'était principalement des animaux de nos contrées à nous. Donc c'était des ours, surtout des loups, des cerfs, et même, justement, des animaux de ferme que les princesses aimaient bien avoir, mais pour s'occuper, elles, en fait. Okay. Et il y avait des animaux exotiques, mais c'était extrêmement rare, et en principe, on ne savait pas du tout s'en occuper, et ils mouraient assez vite. Et en fait, Louis XIV... Mazarin lui avait construit de base une ménagerie à Vincennes. Et pareil, elle a totalement disparu. Pour le coup, là, il n'y a aucune trace. Il avait une ménagerie à Vincennes, mais cette
donc
ménagerie...
Les preuves, en fait, s'il n'y a aucune trace, c'est que les gens ont écrit des trucs.
Voilà, c'est ça. Il y a ça, c'est des sources manuscrites que j'ai dû voir. C'est des plans, en fait.
Okay.
Et en fait, c'est un peu triste. Donc, le zoo de Vincennes, c'était que des combats d'animaux. Donc, c'est-à-dire qu'on venait et on assistait à des combats. Ça coûtait un peu cher, d'ailleurs, à la cour, parce que en fait, ils achetaient un lion et après, ils faisaient massacrer par un tigre, etc.
Oh, horrible.
Et tout le monde, c'était un céral. En fait, c'est ça qui est dur en histoire. Enfin, moi, j'y arrive plutôt bien maintenant. Il faut pas dire horrible ou trop cool. Ouais. Il faut réussir à dire, bon, bah, c'est comme ça.
Ouais, c'est ça qui s'est passé.
C'est comme ça. Et d'ailleurs, je raconterai ça à la fin. Et en fait, ils étaient tous ce qu'on appelle en céral, donc les gens étaient surélevés et regardaient le spectacle. Et Louis XIV, il aimait bien l'idée.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De l'animal, mais il disait, c'est du gâchis, en fait. On peut en faire autre chose. Et il a vu une ménagerie à Fontainebleau qui s'appelait la Mi-Voix à l'époque, qui n'existe plus non plus, où il voyait, en fait, des animaux. Donc là, c'est des animaux de ferme, mais qui étaient tous en un même lieu et que ça créait de la diversité, que ça attirait beaucoup la cour quand même. Il a dit, je vais faire ça. Donc en fait, le premier, hormis le château, qui était déjà le château de son père, en fait, à Versailles, le premier truc qui a été construit à Versailles, c'est la ménagerie de Versailles. Donc au début, il n'avait pas grand-chose, il avait des poules, il avait des boucs, etc., qui servaient principalement à la cour, à la table. En fait, il les mangeait ou alors ils utilisaient le fromage, etc. Et au fur et à mesure, en fait, il a demandé à Colbert... Écoute.
Donc Colbert qui était qui ?
Colbert, en fait, il s'occupait de la gestion, enfin il s'occupait de l'économie, si tu veux.
D'accord.
Et il disait, écoute, on a besoin d'un pourvoyeur, donc en Afrique et en Amérique, et qu'on en ramène des animaux exotiques qui vont plaire au public, en fait. Pour vulgariser, ça je le mets pas dans ma mémoire, mais pour se la raconter et montrer à quel point il est puissant, à quel point il est fort, à quel point il est le soleil. D'ailleurs, la ménagerie était centrée pareil comme le château au soleil. En fait, quand le soleil se levait, on voyait toute la ménagerie, et quand le soleil se couchait, on voyait encore la ménagerie. Le château était surélevé des cours, donc en fait, quand tu étais sur la cour du château, enfin, le balcon, tu voyais toutes les cours des animaux qui étaient en éventail comme ça autour du château. Et là, ça, les visiteurs, ils faisaient waouh, ouais, quel grand roi en fait. C'était ça la volonté.
Et pourquoi ça, tu mets pas dans ton mémoire?
Ah si, ça, je le mets, mais je le dis pas comme ça. Voilà, ouais, c'est plutôt ça. Et en fait, il voulait vraiment faire une. Par exemple, je vais dire que le roi se l'a raconté, il voulait vraiment. Enfin, là, je vous dis, il veut montrer à quel point il est riche et puissant. Que dans mon mémoire, je veux dire, il va valoriser le mécénat princier scientifique. Voilà, c'est pas tout. Enfin, c'est pour ça que j'essaye de. Que tout le monde comprenne. Voilà. Et en fait, cette ménagerie, donc, elle va, après, à partir du 1700, les animaux qui étaient à Vincennes, ils vont revenir à la ménagerie de Versailles. Et c'est là qu'il va avoir des fauves. Donc, il va recevoir en 1681, si je dis pas de bêtises, il va recevoir le premier éléphant africain qui a été reçu en France. Ils vont réussir à le faire vivre très longtemps, alors que je comprends pas, il lui donnait de l'alcool tous les jours, il pensait vraiment que ça allait marcher, et ça a marché. L'éléphant était alcoolique à la fin de sa vie. Et du coup, il doit vraiment avoir beaucoup d'animaux comme ça. Et il va le donner à la fin de son règne à la mère de Louis XV, donc Marie-Adélaïde de Savoie, qui va réaménager tout. Et elle va demander des tableaux à l'intérieur de la ménagerie. Et ça devenir vraiment un lieu de faste, de luxe. Elle va demander aussi à ce qu'il y ait des grottes artificielles. C'est-à-dire qu'il y a une grotte en dessous le château. Et quand tu rentres, il y a des effets de fontaines qui sont encore plus impressionnants que ce qu'on a aujourd'hui à Versailles. C'est vraiment dommage qu'on ait plus ça aujourd'hui, je trouve. Enfin, plus les animaux, mais au moins qu'on ait gardé. Ça aurait été bien qu'on ait gardé ce château. Et pareil, les animaux, ils disposent en fait selon leur environnement. Par exemple, les autruches, ils vont être plutôt dans le sable avec des palmiers. Et au contraire, les pélicans, on va leur installer une mare avec des poissons dedans pour qu'il y ait une espèce de théâtre de la nature, comme ils l'appellent, pour recréer un espèce d'environnement. Pas pour le bien-être des animaux, parce que ça, ils s'en fichent un peu.
Ouais.
Mais pour essayer de les conserver, parce que ça coûte cher, et pour impressionner le public. C'est vraiment l'attente, en fait. Mais malheureusement, donc... pour eux, Marie-Adélaïde de Savoie, elle meurt rapidement. Et en fait, Louis XV et Louis XVI, ils n'ont strictement rien à faire de cette ménagerie.
Alors, je pense qu'il faut vraiment que tu précises qui est qui. Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant.
Marie-Adélaïde de Savoie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mère de Louis XV.
Okay.
Et quand elle meurt très très jeune. En fait, donc la ménagerie n'appartient plus à personne. Elle appartient à la royauté, mais elle appartient à Louis XV, en fait.
D'accord.
Mais Louis XV se désintéresse pas mal de la ménagerie. Et Louis XVI encore plus. Même s'il y a toujours des animaux qui sont amenés de manière assez récurrente, il n'y a plus les fêtes comme il y avait avant. En fait, avant, il y avait des promenades, des fêtes, des représentations de théâtre, etc. Donc c'était vraiment un lieu, ouais, où tout le monde se rendait le soir.
Quoi.
Voilà, c'était un lieu de vie et au fur et à mesure, ça l'est de moins en moins. De plus, avec les guerres, etc., il y a certains animaux qui n'arrivent jamais à terme. D'autant plus que c'est extrêmement difficile pour l'époque de ramener un lion qu'on a capturé parce qu'on n'a pas élevé en plus, de ramener un lion à Versailles. Et encore plus, par exemple, des animaux qui sont aquatiques, par exemple, ils étaient hyper contents, ils avaient trouvé un crocodile, ils ont dit « Génial, on a un crocodile !» Et ils ont dit « Bon, le crocodile est super serein pendant le voyage, il bouge pas, etc. » Arrivés à la ménagerie, ils l'ont mis dans la flotte, ils ont dit « Bah parfait, franchement, on a dit que c'était agressif un crocodile !» Puis à un moment donné, ils ont dit, mais c'est bizarre, on l'a jamais revu remonter à la surface. Bah ouais, il était mort depuis 4 mois, le crocodile. Donc, en fait, voilà, ils se rendent pas compte, ils connaissent pas les animaux.
Ok.
Et en fait, pour passer un petit peu, à la Révolution française, il y a eu une espèce de reconnaissance de la souffrance animale, qui est vraiment explicite, qui se perd au 19e siècle, mais à la fin du 18e siècle, les gens, ils ont tellement vu des choses qui les ont bouleversés, qui se sont dit, mais mince, ce qui nous a bouleversés, on continue de le faire aux animaux. Et aujourd'hui, c'est plus possible de conserver une ménagerie princière comme ça à Versailles, d'autant que le pouvoir passe à la nation en 1792. Il faut que ces animaux soient utiles à quelque chose. Il faut, ouais, qu'ils soient utiles au pouvoir public. Donc en fait, ils ramènent tous les animaux qui sont restants de la ménagerie de Versailles à Paris. Et ils ont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée une ménagerie à Paris, qui est aujourd'hui donc la ménagerie du Jardin des Plantes. Et en fait, donc, il restait un rhinocéros, un couagua. Un couagua, c'est un zèbre tout marron. Il restait également donc, un lion, un chien, un bubal et quelques poules et des brins.
C'est quoi un bubal ?
Alors, un bubal, c'est une grande antilope. Tu sais qu'il y a des cornes qui s'enroulent autour d'elle-même.
D'accord, ouais.
Et c'est une très belle antilope. Et en fait, ce qui m'a fait de la peine, mais que je ne dois pas dire dans mon mémoire, mais que je dois quand même dire que c'est intéressant, c'est que la moitié des animaux que j'étudie, ils ont disparu. La moitié des animaux que je lis, je dis « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Je tape et je dis « ah oui, mais c'est disparu depuis un siècle ou deux parfois. » Par exemple, le couagua, il a disparu hyper rapidement parce qu'on l'a trop chassé. Le lion de l'Atlas, pareil, un lion qui avait une énorme crinière noire, il a disparu en 1940 et je me dis « punaise, mais c'est là qu'on se rend compte en étudiant l'histoire ouais. qu'on a massacré des espèces sans s'en rendre compte. » À l'époque, ils n'en avaient aucune idée qu'elles étaient déjà en voie de disparition, en fait. Maintenant, on s'en rend compte, mais à l'époque, ils ne savaient pas.
Mais du coup, toi, tu étudies vraiment les animaux. Est-ce que tu as une affinité particulière avec les animaux et c'est ça qui t'a fait tourner vers cette recherche-là ?
Alors, en fait, j'ai une affinité personnelle avec les animaux. Enfin, par exemple, je ne mange presque pas de viande. J'aime beaucoup les animaux, même mes t-shirts. Bon, là j'ai un bulldog, j'ai des bulldogs français. J'aime beaucoup les animaux, mais il faut absolument pas que ça se voit dans ton mémoire en fait. Tu choisis parce que tu choisis un mémoire qui te plaît, c'est sûr, mais surtout tu choisis un mémoire parce qu'il a jamais été fait. Les animaux exotiques, là, et les animaux de manière générale, ça commence à devenir un champ important au niveau de l'historiographie. Donc l'historiographie, c'est ce qu'on appelle le champ en histoire. Donc qui a travaillé sur quoi ?
D'accord.
Et en l'occurrence, l'animal, il y a encore peu de gens qui ont travaillé sur l'animal. Ça commence à se démocratiser. D'ailleurs, les jeunes, ils sont plutôt invités à travailler là-dessus. Mais c'est... J'aime les animaux, mais on n'est pas censé le savoir dans mon mémoire. On n'est pas du tout censé le savoir. Et donc, une fois que la ménagerie du Jardin des Plantes a été créée, à partir de 1793, quand le muséum a été créé aussi, ils ont en fait tous les animaux exotiques qui étaient dans les rues de Paris, donc les forains, ce qu'on appelle les cirques à l'époque, mais ça va se développer, ils vont être amenés au Jardin des Plantes, ils vont dire « maintenant c'est fini, toutes les représentations des rues, etc., les montreurs d'ours, les montreurs de fauves et tout, c'est terminé ». Tout le monde au Jardin des Plantes.
Est-ce qu'il y avait une contrepartie au fait qu'ils prennent
des
animaux
en fait, c'était compliqué parce que les forains disaient « bah oui, mais c'est notre gagne-pain en fait, comment on fait pour vivre désormais ?» Ils ont dit « bah écoutez, il y a une contrepartie, ok, vous perdez votre travail, maintenant vous devenez gardien des animaux de la ménagerie. » Donc en fait, ils n'ont rien perdu, au contraire.
Okay.
Et ils ont tellement un statut important qu'il y en a un qui a assassiné quelqu'un et ils ont dit « non, il n'a rien fait ».
Ah, wow.
Ouais, c'est dingue parce que Félix Cassal, bah, j'ai lu très récemment, Félix Cassal qui était le gardien des lions, il a assassiné quelqu'un et le muséum a fait en sorte que ça disparaisse parce qu'ils en avaient absolument besoin.
Et ça c'est dans les archives.
Et ça c'est dans les archives.
C'est, ouais. C'est,
c'est dingue. Pareil aussi, il y en a un, il m'a fait un peu peur. Je lisais tranquillement, il écrivait un rapport sur la girafe et là d'un coup il a dessiné plein de vulves de girafe. J'ai fait.
Ok.
Bon bah je passe la page.
Mais il a pété son
câble. Ouais, il a trouvé ça magnifique. C'est très inquiétant parfois. On lit des choses incroyables. Okay. Et donc après je travaille donc comment on est passé, si tu veux, d'une ménagerie vraiment princière pour exalter le luxe à une ménagerie d'utilité publique. On observe l'animal pour le conserver et pour essayer de le de préserver l'espèce. Et maintenant, on a d'importants programmes de reproduction pour justement que les animaux disparaissent pas dans la nature. Et c'est vraiment ce qui transparaît maintenant dans les zoos français. Désormais, si vous voyez vraiment un lion dans 2 mètres carrés, c'est pas un zoo. Enfin, c'est pas le but premier du zoo.
Et est-ce qu'à l'époque, ils avaient conscience de ça au moment où ils créent la ménagerie du Jardin des Plantes ?
À ce moment-là, ils en ont conscience. C'est ça qui est marrant, parce qu'il ne faut pas voir l'histoire comme une évolution. Il faut vraiment voir l'histoire comme plutôt sachant. Tout est bouleversé.
Oui.
Voilà.
Oui, parce que c'est fou ce que tu dis rapport aux droits des animaux.
C'est ça qui est fou, parce que dis-toi, au XVIIIe siècle, c'était l'une des époques où les gens étaient le plus végétariens. On a du mal à y croire, mais par exemple, les grands intellectuels, aucun ne mangeait de viande. Voltaire, il disait « je suis complètement végétarien ». Il dit « on ne peut pas faire de la souffrance animale, etc. comme ça ». Et ils avaient conscience que les animaux avaient une personnalité. Par exemple, il y avait un lion qui était hyper ami avec un chien depuis son tendre enfance. Et quand le chien il est mort, à la ménagerie, ils lui ont donné un autre chien. Et il l'a tué, le chien. Il a dit « non, c'est pas celui-là que je veux, c'est l'autre ». Et ils se sont rendus compte à ce moment-là que l'animal avait une personnalité. Et au fur et à mesure, et au 19e siècle, ça s'efface. Alors là, pareil, il faut des études que j'ai pas encore commencé.
Ouais.
Et par ailleurs, en 1870, par exemple, quand Paris a été bloqué, ils avaient tellement plus rien à manger qu'ils sont allés à la ménagerie, ils ont tué tous les animaux pour les manger. Et alors que un siècle avant, ça, c'était pas concevable. Mmh. Enfin, c'était pas possible. On préférait vraiment conserver le patrimoine, entre guillemets, animal, que tous les manger, quoi.
Et ces anecdotes-là, tu les racontes dans ton mémoire ?
Oui, par contre, les anecdotes, oui, je vais les intégrer. Okay. Oui. Enfin, le coup du gorille, je le mets pas parce que ouais, ça n'apporte pas grand-chose, mais il y a vraiment des anecdotes, oui, que je raconte. Parce que c'est très intéressant, je trouve, le montrer qu'ils ne savent pas s'occuper des animaux et qu'au fur et à mesure, ils se rendent compte qu'il va falloir qu'on engage des gens qui savent et qu'il va falloir qu'on développe une chaire qui fait que, qu'on doit mettre des règles pour sauvegarder ces animaux. Et pareil, l'évolution de l'art, c'est incroyable. Enfin, au XVIe siècle, quand ils dessinent un rhinocéros, ils dessinent le rhinocéros de Durer, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un peu connu. En fait, le rhinocéros, il a une énorme armure sur lui avec des écailles, et comme s'il avait des plumes aussi, et une licorne, une corne comme une licorne sur le dos. Tu dis, mais où est-ce qu'il a vu ce rhinocéros là, hein? Enfin, moi, j'ai envie de voir ça. Hein.
Ouais.
Et en fait, il a juste entendu des... À ce qui paraît, le rhinocéros est comme ça, il l'a dessiné. Et au fur et à mesure des siècles, on se rend compte, donc à partir de Jean-Baptiste Audry surtout, qu'on commence vraiment à se poser, bon ok, on a des animaux exotiques, maintenant on les reproduit tels quels, comme ils sont vraiment, avec leur personnalité et avec leur morphologie. Et c'est super intéressant parce que dans les vélins justement, donc qui sont conservés au muséum, on voit vraiment cette évolution et je trouve ça dingue. Enfin, et même encore aujourd'hui, on découvre vraiment des choses grâce à ces arts. Qui montre justement l'évolution de la zoologie comme on la connaît. Et je voulais dire justement, les archives, il y en a énormément à Paris, par exemple. Rien que pour mon sujet, j'ai dû aller donc, aux Archives nationales, donc c'est le centre, le cœur névralgique de toutes les archives, qui vont vous emmener un petit peu à droite à gauche. Donc après, il y a le Muséum d'histoire naturelle, qui a beaucoup, beaucoup d'archives, beaucoup de sources. L'Académie des sciences, ce que j'ai dû aussi, par exemple, il faut avoir un peu le corps accroché, mais regarder les dissections qui sont faites sur les animaux exotiques pour les comprendre, notamment l'Académie des sciences. Par exemple, j'ai lu des traités où ils dissèquent, je suis désolée, ils dissèquent vivants des chiens pour voir comment le sang s'écoule. Mais en fait, il ne faut pas avoir de jugement envers... très difficile.
C'est de leur temps, quoi.
Il ne faut pas émettre de jugement de valeur dans ton mémoire. Et ils dissèquent des animaux qui sont parfois, bien heureusement, déjà morts. Et c'est super intéressant de voir les comptes rendus qu'ils en font, en fait. Comment fonctionne le cœur, comment fonctionne... les animaux, ils savent pas, en fait, comment l'anatomie comparée, c'est encore très jeune. Donc c'est super intéressant de voir l'évolution de l'art, de la science et du rapport homme-animal. C'est là-dessus que j'essaie de me centrer.
Et du coup, je me demandais, comment est-ce que... Donc, tu as ton mémoire. Je suppose que tu as, du coup, comment dissertes, tu dois avoir une question à laquelle tu dois répondre à la fin.
Des problématiques, en fait. Là, j'en ai plusieurs.
Ok, tu as plusieurs problématiques, d'accord.
Mais que je dois faire moi-même. En fait, il faut pas vous dire que le directeur va vous aider.
Ouais.
Il ne faut pas partir de ce principe-là. En fait, il va vous donner des grandes lignes, très grandes lignes, parce que lui, il n'en a aucune idée souvent du sujet. Parce que le but, c'est que quelqu'un ne l'a jamais fait.
Oui.
Il va donner des grandes lignes, et après, c'est à toi, en fait, de trouver des problématiques. Donc, pour moi, mes problématiques, c'est comment on est passé d'une ménagerie princière à une ménagerie scientifique, et comment se définit à ce moment-là le rapport homme-animal. En gros, c'est ça, mes problématiques. Okay. Et voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup d'archives, il faut voir beaucoup de tableaux, il faut se déplacer beaucoup, et c'est en ce sens que j'adore, parce que je reste pas figée à un endroit. D'ailleurs, j'ai plus de cours au second semestre, là, actuellement, j'ai plus du tout de cours depuis décembre, mais c'est fait pour, en fait. Ils vous disent, bon, maintenant, vous allez en bibliothèque, vous allez marcher, vous allez voir des zoos, vous allez, enfin, pour moi, hein, mais il y a des gens qui vont voir des expositions, par exemple, j'ai quelqu'un qui travaille sur le violon, donc il a dû voir des concerts, etc. D'autres, au contraire, leurs sources, elles sont en Italie, donc les personnes doivent partir. Enfin, c'est comme vous voulez. Ce qui est dingue avec la recherche, c'est que tu choisis un sujet et tu peux après voyager comme tu l'entends. Moi, mes sources, elles sont à Paris, donc je reste à Paris. Mais il y en a d'autres, ils doivent partir en Chine, etc. pour faire leur recherche.
Ouais, c'est un dingue. Vrai chercheur, en fait.
Ouais, c'est un chercheur, ouais.
C'est pas parce que t'es en études, en fin de compte, que t'as pas des actions.
C'est ça qui est marrant, parce qu'au début... Quand on me disait master d'histoire recherche, je pensais pas que c'était aussi professionnalisant, mais en fait ça l'est, différemment. C'est pour ça qu'il faut valoriser dans ton CV. Par exemple, moi dans mon CV, j'ai pas fait de stage malheureusement, enfin j'ai pas eu le temps dans mes études, etc. J'ai fait ce choix-là. j'ai pas d'expérience professionnelle, hormis un site web quand j'écris des articles dessus, etc., de jeux vidéo. Et en fait, j'écris dans mon CV compte rendu, enfin, mémoire scientifique de 200 pages, et je pense que ça, c'est valorisant de montrer que tu sais élaborer une recherche par toi-même, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, derrière mémoire, il y a recherche, il y a autonomie, il
voilà,
y a...
Voilà, c'est ça, communication, il y a vraiment de l'écriture, même du journalisme, en fait, parce que tu dois parler à des gens, te faire un réseau. Par exemple, j'ai donné une conférence aux Mésomes samedi dernier, et j'étais là, punaise, mais il va y avoir 10 personnes, au final, ils étaient 50, j'étais super contente, quoi. J'étais là, waouh, super. Et en fait, il faut vraiment... vraiment ne plus regarder tes feuilles, par exemple, en fait, j'avais amené tout ça, je sais pas si on va voir, tout ça c'était une conférence d'une heure, donc j'avais 25 pages et en fait j'ai rien lu, je me disais au début je vais pas réussir à me détacher, j'ai trop de choses à dire, j'avais
donc, commencé
alors, à surligner.
En plus des 198 pages de ton mémoire, t'as écrit 25 pages pour une conférence.
Oui, bah oui, il faut, il faut un petit peu. Et en plus aussi, mon directeur, il me demande souvent de venir aider des M1 qui sont perdus. Parce que malheureusement, il faut vraiment en vouloir, il faut que vous vous aidiez vous-même, et n'hésitez pas à contacter justement des gens qui sont en doctorat ou qui sont en master, parce que les M1, ils comprennent pas ce qu'ils font là, en fait. Moi, je leur donne, ils me disent souvent de venir pour leur expliquer et donner des petites conférences pour leur montrer, non, mais vous inquiétez pas, la recherche, si vous êtes passionné, tout le monde peut le faire. Il suffit vraiment de chercher et d'écrire ce qu'on trouve. Il faut juste avoir un regard neutre. Vraiment, c'est super important. Par exemple, en L2, je me rappellerai toujours, on avait un partiel sur les camps d'extermination. Et mon voisin avait marqué tout le long les camps de l'horreur, c'était horrible, machin. Et bien sûr que mon prof n'est absolument pas nazi ni rien, il est humaniste. Mais il a dit, c'est pas à toi de dire ça. Enfin, l'historien, il n'a pas à dire l'horreur, tu dis les camps, c'est tout. Oh, c'est pas à toi, ouais.
Peut-être pour ça que j'avais vraiment des notes de merde en histoire, parce que je savais pas analyser les trucs, j'étais là, genre, bah, je sais pas, il s'est passé ça. Manque d'analyse.
Bon, en fait, c'est ça, l'histoire, faut pas l'apprendre, faut la comprendre. Ouais. C'est ça la différence, en fait. Donc.
J'avais une question qui me vient de m'échapper, c'est parfait.
Mince,
j'ai commencé à parler.
Désolée.
J'ai oublié. Si, tu parlais de justement du fait que tu écris pour un site de jeux vidéo. Et en fait, quand on s'est eu au téléphone avant que tu viennes, tu m'as dit en fait, mon master de recherche, maintenant, il me sert dans ma vie tous les jours.
Oui, mais c'est fou. Par exemple, même pour me faire un avis politique, entre guillemets, je vais dans les archives nationales et puis je lis des choses sur des candidats et ça me fait un avis quand même. Et ça me sert tout le temps, en fait,
c'est
par exemple.
Bien,
ouais, mais c'est fou parce que même, comme j'ai une carte, je peux voir des informations que des gens ne peuvent pas avoir.
Alors, t'as une carte parce que t'es étudiante ?
Ouais, parce que j'ai un justificatif de recherche. En fait, tout le monde peut pas aller aux archives nationales. Par exemple, moi, quand il est le lendemain des attentats de 2015, en 2016, j'ai dit, j'ai envie de voir les sources, en fait. J'ai donné ma carte et j'ai marqué les sources que je voulais voir et j'ai vu des sources de gens, des mots qu'ils avaient laissés devant le Bataclan, par exemple. Je trouve ça super intéressant parce que je me dis, ces sources-là vont bientôt servir à des historiens. Moi, je le regarde surtout pas par curiosité, mais dire, ouais, c'est dingue quand même qu'on garde tout, en fait. On essaie vraiment de tout garder. J'avais quelque chose aussi à dire, mais j'ai oublié. Oui, ah oui, si. Par exemple, dans mon site, mon petit site web, c'est super cool si vous voulez y aller.
C'est quoi le site ?
C'est Erreur 404.
Ok.
En fait, on fait des tests. Moi, je fais des tests de jeux vidéo principalement, parce que j'adore ça. Et on m'a demandé de faire une rétrospective sur la saga Zelda. Et je ne connaissais pas du tout Zelda. Je me suis dit, j'ai jamais joué. J'ai joué une seule fois avec Ocarina of Time, mais c'était il y a plus de 10 ans. Enfin, c'était sur Nintendo 64. Je me rappelais pas du tout. Et en fait, la recherche, grâce à ça, j'ai des mécaniques qui reviennent tout de suite.
Ouais.
Et je sais où il faut aller chercher. Je vais tout de suite sur Surdoc, Cairn, etc. Et en fait, j'ai réussi à faire une rétrospective de 7000 mots en faisant quelque chose que je ne connaissais pas, en fait. Et c'est vraiment super utile dans la vie de tous les jours parce que, en fait, vous avez des repères dans votre tête qui vous disent, bon, là, à partir de là, tu vas chercher ça, et à partir de ceci, tu iras là, et avec certaines sources, donc plutôt vidéoludiques, tu vas aller ailleurs. Par exemple, Lina, il y a des sources surtout sur la télévision, etc. Et c'est super intéressant de voir que ça te sert dans la vie de tous les jours, la recherche. Vraiment, sur n'importe quel sujet, tu peux rechercher. Par exemple, j'ai fait un sujet pour l'année dernière, où j'avais encore des cours, sur la Terre des dinosaures, je ne sais pas si vous connaissez,
non.
De BBC. C'était une série de documentaires sur la tête des dinosaures, c'était super bien.
Ah mais
bien.
Attends, si, je suis sûr et certain que
c'est... Lâche ton portable, on a dit.
Mais il voulait regarder ce que c'était, je pense.
La Terre des dinosaures.
C'était une série de BBC, et je l'avais vue quand j'étais petite, mais et je me suis rendu compte que les sources, il fallait vraiment que je les cherche, etc. Et j'ai regardé sur Lina, etc. Et en fait, j'ai réussi à faire mon sujet, etc. Je dis beaucoup. J'ai réussi à faire mon sujet grâce à mes compétences en recherche, en fait, et en communication. Et c'est super intéressant parce que en histoire, tu te rends compte que tu développes beaucoup de journalisme, beaucoup de communication et beaucoup d'analyse sans émettre de jugement. Et ça, c'est apprécié.
Ouais.
De pouvoir être neutre.
Ouais, ça, c'est fou parce que c'est un truc qui est demandé à tous les journalistes et c'est un truc qu'on retrouve très peu dans la presse, ouais. Je pense.
C'est ça qui est c'est dingue parce que les journalistes. Il y a très peu de comportements neutres, en fait. Mmh. C'est ça que je trouve ça étrange, parce qu'au final... Enfin, moi, j'aimerais bien... Justement, je vais peut-être parler des débouchés ou pas.
Ouais.
Moi, mon rêve absolu, c'est de faire une thèse. Enfin, de continuer, là. Ouais, mais
faut que j'allais... Ah, c'est ça que je voulais te demander tout à l'heure. C'est bon, là, j'ai retrouvé.
Mon rêve absolu, c'est vraiment de faire une thèse et d'être professeur à l'université. Ça, c'est vraiment ce que je rêve le plus. Malheureusement, en fait, les contrats doctoraux en histoire, c'est très... très dur à avoir. T'as une chance sur 10 de l'obtenir, en fait. Parce qu'il faut, un, trouver un directeur de recherche. Un directeur de recherche qui veut bien te prendre sans que tu aies l'agrégation. Ça, c'est encore plus dur.
Oui.
Et trois, tu passes devant un jury qui décide oui ou non si c'est, ton sujet est intéressant et si ça vaut le coup de que tu continues en thèse. Donc,
ah ouais.
En fait, il y a 10% des étudiants qui continuent en thèse.
Donc, s'il y a un directeur de recherche qui nous regarde, hein, y en a une ici.
Et du coup, il y a trois timelines possibles pour moi, exactement comme dans Zelda d'ailleurs. Trois timelines, en fait. Donc, soit je suis un M2 pro journalisme l'année prochaine, donc ça, il faut que je le trouve, il faut que je fasse un dossier. Soit j'ai enfin mon contrat doctoral et je suis le rêve de ma vie. Soit, donc je suis sur. J'ai ni mon M2 journalisme, ni mon contrat, et là, je ferai l'agrégation. Mais l'agrégation, vraiment, c'est. hyper dur. Enfin, les gens, ils l'ont en minimum 2 ans, souvent. Et c'est 45 heures de cours par semaine. Je sais même pas comment je vais caler ça. Et en plus, quand tu rentres chez toi, tu dois retravailler. En fait, tu dois apprendre 4 périodes historiques presque par cœur. Je vois même pas comment c'est possible, en fait. Et d'ailleurs, la dissertation finale de l'agrégation, c'est 9 heures. Tu te rends compte ? 9 heures sur une table à écrire. Enfin, moi, je me vois pas faire ça.
Et ça, c'est des trucs qui sont même plus valables à l'époque d'aujourd'hui. Tu vois.
Même Louis XIV, il dirait, vous abusez, les gars.
C'est ça. Et moi, même déjà, quand j'étais au bac d'histoire, j'étais là genre, oh mon Dieu, mais écrire autant de temps, qu'est-ce que je vais dire ? Je ne sais pas.
Il faut tout le temps vite pour partir à la moitié, tu vois, parce que tu as le droit de partir à la moitié de tes
épreuves. Oui, voilà, c'est ça.
Je suis cartonné, je partais à la moitié.
Alors que l'agrégation d'histoire... Enfin, après, j'avais l'habitude. En licence, c'était 4 heures, mais 9 heures, c'est le double.
9 heures, c'est énorme.
Mais il y a 100 places par an à peu près, l'agrégation. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a même des professeurs qui ont 40 ans qui la passent et qui l'ont pas, quoi. Tu dis, mais comment moi, à 22 ans, je peux l'avoir ?
Bah, c'est ta passion, fait. C'est tout. Genre,
c'est ma passion,
tu réponds depuis tout à l'heure à la question. Genre, il y en a, je pense, qui ont 40 ans, mais qui ont fait ça, genre, pas forcément par passion. Tu vois, toi, comment t'en parles là tout de suite ? Genre, clairement, moi, j'ai bu tes paroles.
C'est trop gentil. Je pense que tout le monde est passionné.
Ah, alors,
c'est
vraiment pas... même sur le chat.
Ouais,
j'avais peur de les ennuyer.
Tu sens
alors, pour te rassurer, je vais te lire les commentaires du chat. Il y a Morgane qui dit « Punaise, elle me donne envie d'aller en histoire. J'ai toujours été passionnée d'histoire et je suis en fac de biologie. » Bon, elle dit « Je vais quand même pas changer d'orientation parce que j'aime bien la biologie. »
Mais il y a l'histoire de la biologie. C'est
et voilà. Il y a qui d'autre Enfin, il y a pas mal de gens qui ont dit « Oh, c'est trop bien. » Il y a Diane tout à l'heure qui disait que c'était passionnant. Voilà. Et, par contre, elle disait aussi « Younes est mal, il pleure au fond de lui. » Non, il est juste passionné, il écoute très sagement. Laissez-le tranquille.
C'est vraiment incroyable l'histoire. L'histoire, de manière générale, vous pouvez prendre n'importe quel sujet, en fait, tant que ça n'a pas été fait. J'ai connu une fille qui commençait à travailler sur la relation entre l'histoire et Game of Thrones. Il faut vraiment que je lise son mémoire, il faudra qu'elle me l'envoie. Pareil, j'ai quelqu'un qui a fait sur l'histoire du livre, l'histoire du jeu vidéo. On peut tout faire en histoire parce que l'histoire, c'est nous en fait. Tu poses ton stylo, là, ça y est, c'est de l'histoire. Mm. Enfin, c'est en fait la différence entre histoire et préhistoire, c'est que l'homme a commencé à écrire ses mémoires. Et à partir où il y a des sources, des sources écrites ou matérielles, bah là on considère que c'est de l'histoire. C'est ça la différence entre nous et les autres animaux en fait. Les animaux ils ont une histoire mais à travers l'homme. C'est ça qui est bizarre aussi. Je suis pas du tout spéciste, hein, mais, ouais. Mais en fait si l'animal a une histoire, c'est entre guillemets grâce à nous aussi. Parce qu'ils ouais. Peuvent pas écrire leur mémoire. Mmh. Aussi intelligents soient-ils, les dauphins ils peuvent pas écrire quoi oui. Que ce soit.
C'est vrai. On n'a pas, enfin en tout cas en tant qu'humain, on ne peut pas savoir. Ça se trouve, eux, ils ont des archives entre eux, on ne sait pas.
Oui, mais c'est ça. En fait, ce qui est fou, c'est que dans les animaux, il y a des cultures. Par exemple, les orques, selon l'endroit où ils se trouvent dans la planète, ils chassent différemment.
Ils ont une langue différente aussi.
Ils ont une langue différente aussi, exact.
Des surnoms. Ouais. Genre, ils se surnomment oui, ils ont des en noms. Grognant, tu vois. Ouais. Genre, enfin, avec leur langage, tu vois.
En fait, les orques, ils ont des noms. En fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient ils se donnaient des noms à la naissance. Ce qui est fou, quand même.
Ouais.
Et il y a une certaine. Donc, du coup, on peut dire qu'il y a une certaine culture, mais pourtant, il n'y a pas d'histoire. Ouais. C'est ça qui est.
Nous, on s'en rend compte, en fait. Mais enfin, c'est ça, en fait. C'est l'histoire, c'est ça, ouais. L'histoire humaine traite, du coup, de tous les trucs que l'humain traite. Mm. Mais du coup, de l'autre côté, on ne sait pas comment ça se passe chez les autres espèces.
C'est super compliqué ce que tu as dit.
Mais oui, mais vous voyez ce que je veux dire.
T'inquiète. Et du coup, si les gens ils sont intéressés, donc sachez qu'il y a 4 périodes historiques où on peut travailler.
Oui, et c'est marrant parce qu'il y avait, du coup, il y avait Romain qui demandait pourquoi c'était pas... Enfin, la différence entre moderne et contemporaine.
Ah oui, parce que j'ai dû...
Voilà. T'as dit que tu faisais de l'histoire moderne.
En fait, moi... Je fais de l'histoire moderne, donc on considère que l'histoire moderne qu'on débute à la découverte de l'Amérique, généralement les historiens ils sont à peu près d'accord, c'est 492, et ça se termine, en France en tout cas, hein, ce que je parle, ça se termine en 1789, à la Révolution française, on considère qu'à partir de 1789 c'est l'époque moderne, contemporaine. Pardon. Donc en fait, quand je parle de Napoléon, je dis, bon bah les contemporains, etc., ils disent mais Napoléon c'est pas, c'est moderne, c'est pas... Non, contemporain c'est à partir de 1789. Et donc l'Antiquité, c'est la plus grosse période, donc c'est environ moins de 1000 ans jusqu'à 400, et 400 jusqu'à 1492, on considère que c'est Moyen-Âge environ. Okay. Donc en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que selon la période que vous allez prendre, il va y avoir plus ou moins d'exigences. Ça va être très compliqué, enfin, les complications sont différentes. Par exemple, en Antiquité, il y a très peu de sources,
oui.
Il n'y a presque pas d'écrits. Et en plus, quand il y en a, il faut apprendre une langue grecque ancienne, enfin vraiment...
Les différents pauvres dialectes.
Voilà, donc en fait, ils sont relativement soft sur les sources. J'ai une amie qui fait du coup un travail sur Aristote, et ils disent, bon, c'est pas grave si tu n'as pas des sources officielles. T'as pas besoin d'aller en Grèce pour lire des trucs que tu comprendras rien. Prends des auteurs contemporains et travaille à travers une vision contemporaine.
D'accord.
Moyen-Âge, pareil. Moi, j'ai eu un cours en M1. C'était, en fait, un cours de déchiffrage, vraiment, d'un texte du Moyen-Âge. Et on a pris 3 mois pour une page. Vraiment, c'était la note finale. Parce qu'en fait, le prof nous disait, vous avez un mois pour déchiffrer... 3 mois, pardon, pour déchiffrer une page. J'étais là, ouais. Ok. Parce qu'en plus, la première ligne, tu comprends, parce que c'est écrit en super gros. Puis après, tu sais pas pourquoi ils ont écrit en...
minuscule, quoi, pas de mouche.
Mais vraiment, vous voyez, tu sais, le carreau de. Bah, c'est plus petit que le tout petit carreau.
Tu passes un mois juste à agrandir les lettres.
Mais déjà. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais obligée de prendre en photo. J'étais obligée de prendre en photo, en fait, avec mon téléphone et de zoomer après. J'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, et je comprenais rien ce qu'il racontait. Tout ça, en plus, pour que le gars, il raconte machin, on lui a volé sa chèvre. Super. Ou encore, ouais, un tel, il a piqué la boîte de concert, entre guillemets. Enfin, la boîte à l'autre. Du coup, j'ai écartelé tout le monde parce que je comprenais rien.
Waouh.
Mais c'est vraiment hyper drôle les sources. Parfois, t'as l'impression que c'est les quêtes de Skyrim, quoi. Machin a perdu son marteau. Du coup, moi, je l'ai tué parce qu'il me rendait pas mon marteau. Et du coup, bah, on a écartelé tout le monde. Et en fait, on s'est rendu compte que juste tout le monde était bourré et on en s'en veut. Bon, bah voilà. Et tout ça pour que le mec qui était soi-disant assassiné revienne et dire bah non, je suis pas mort. Ah bah zut. Ah bah, bon, bah tant pis.
On a tué le mauvais gars.
Voilà. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire, il faut pas la prendre. Par exemple, au Moyen Âge, on a une vision très très pessimiste là-dessus. Même Game of Thrones, ça se ressent dedans. Ouais. On a l'impression que c'est la violence pure et dure. Et au Moyen-Âge, il y a beaucoup, beaucoup moins de meurtres qu'à l'époque moderne. L'époque où je travaille, surtout au XVIe siècle, c'est horrible. C'est l'époque où on brûle le plus de femmes. Mais vraiment, c'est pas le Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que les modernistes, à l'époque, ils ont appelé Moyen-Âge parce qu'eux, ils ont l'impression qu'ils étaient supérieurs, en fait, à cette époque-là. Oh, bah, c'est nous qui avons découvert le Nouveau Monde. Et en fait, ils ont appelé le Moyen-Âge, donc ce qu'il y avait entre l'Antiquité, qui était une super belle époque à leurs yeux, et nous, et eux, en fait. Mm. Et c'est pour ça qu'on a une vision parfois un peu un peu trop manichéenne, je trouve, entre le bien et le mal, etc. Ouais. La période, il n'y a jamais de bien et de mal, en fait, en l'humain, c'est comme l'animal, c'est ma vision au niveau de l'histoire. C'est que vraiment, les époques, elles changent selon les pays, enfin, la violence change selon les pays, etc. Les mœurs, ça évolue. Il ne faut pas prendre que le féminisme, ça a été comme ça, le féminisme, ça a été comme ça tout le long à travers l'histoire. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve.
Mais c'est ce que je pense qui m'a fait réagir de tout ton discours, c'est genre le fait qu'avant, ils étaient beaucoup plus végétariens, alors que pour moi, genre, c'est maintenant que c'est en train de devenir, tu vois.
Alors que ça se trouve, tout le monde va revenir carnivore bientôt. Bah, c'est ça, dans 100 ans, on n'en sait rien.
Ouais.
C'est pour ça que d'un côté, tu m'as aussi donné envie de me réintéresser à l'histoire, parce que je considère énormément de choses comme acquises, tu vois.
Oui, c'est ça. Ouais. On a tendance à penser que on peut tout perdre du jour au lendemain.
C'est intéressant, c'est vraiment.
C'est ça qui est dingue. Ouais.
Il y a Morgane sur le chat qui demande où est-ce qu'on trouve des sources en province.
Alors en province, il y en a moins. Il faut le savoir, mais après, il y en a quand même.
Il y a des archives régionales.
Il y a des archives. Parfaitement. Par exemple, il y a des archives nationales et départementales. Par exemple, j'ai déjà été aux Yvelines pour voir les sources de Versailles. Il y en a quand même beaucoup. Hein. À Lyon, il y en a énormément. À Orléans, il y a des sources.
Après, je suppose que ça dépend de...
Mais ça dépend de ton sujet, en fait. C'est ça, recherche. Par exemple, si tu travailles sur les marchés de Toulouse, c'est pas à Paris que tu vas trouver quelque chose.
Forcément.
Donc, par exemple, mon directeur de recherche, il est tout le temps à La Rochelle. Je sais pas quel est son sujet. Il est tout le temps à La Rochelle. Je sais pas ce qu'il fout là-bas, mais il est à La Rochelle.
C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur les différences de mémoire et les différences de sujets. En fait, je sais pas vous, mais moi, quand je pense histoire, je pense à mes cours de lycée, de collège, et c'est les trucs...
Première guerre, seconde guerre mondiale.
Les trucs vieux, et en fait, hyper centrés sur nous, l'Occident, et particulièrement la France.
Oui, c'est vrai.
Et en fait...
gros événements aussi, tu vois, genre...
Les gros événements,
ouais, c'est ça.
Vous retenez, en fait, ils sont là pour que tu retiennes 1515 Marignan, 1789 Révolution française, etc. En fait, ils sont là pour que tu aies des grandes dates.
Et c'est assez... Et en fait, c'est assez ouf de... Enfin, tu vois, là, toutes les anecdotes que tu nous racontes, on est là genre, mais trop bien, en fait, on en veut 10 000 comme ça. Si les cours d'histoire ressemblaient à ça, ça serait ouf, quoi.
Je trouve ça dommage qu'ils n'intègrent pas plus ça au lycée, parce que dans le supérieur, tu le ressens vraiment, mais dans le secondaire, tu le vois pas. Ils sont là juste pour te faire apprendre, et dans le supérieur, t'es là pour comprendre. Et voir que c'était juste des êtres humains qui faisaient des erreurs, qui faisaient des choses bien comme nous, et qu'on fait partie de l'histoire. Enfin, par exemple, dans 10 ans, ce qu'on fait là, ça sera de l'histoire, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, des anecdotes, j'en ai plein comme ça, mais parfois je me sors de rire toute seule, les gens ils sont là, mais elle est folle.
Et est-ce que les archives nationales, archives internet?
Ah, les archives nationales, non. Les archives nationales, d'ailleurs, leur site internet est une catastrophe. Ils sont là, ouais, on l'a refait, il est parfait. Non, c'est encore pire qu'avant. C'est pas possible, on peut même plus mettre de date. Alors parfois, je suis en train de scroller comme ça, je suis en 1350, je suis là, s'il vous plaît, les gars. Ouais, même CTRL F, en fait, ça marche pas. Ils te disent Lyon, ou non, c'est pas ce que c'est. Ils t'envoient la rue Lyon, mais non, s'il vous plaît, les gars, c'est un peu compliqué. Ouais. Par exemple, aussi, tout bête, les archives nationales sont pas toujours très intelligentes. Par exemple, moi, je tapais oiseaux pour chercher les sources des oiseauleurs, ceux qui vendaient les oiseaux à Paris. Puis je trouvais rien. Je dis, mais c'est pas possible, il y a des oiseaux à Paris, ne serait-ce que maintenant, il y a plein de pigeons, enfin, il y a forcément. Ouais. Et en fait, il faut savoir comment ils écrivaient oiseaux à l'époque. C'était O-Y-S-E-A-U-X.
D'accord.
Donc en fait, tant que tu n'as pas le bon mot, ils ne trouvent pas. Et par exemple, éléphant aussi, je dis, mais si, il y a un éléphant, je le sais, je l'ai lu avec Colbert. En fait, il savait pas écrire, enfin si, il savait écrire différemment que nous, mais c'était pas PH, c'était F, éléphant.
D'accord, mais ça c'est formidable, parce que maintenant, quand on veut dire, genre on enlève les accents circonflexes, au hasard, aucune référence à un live qu'on aurait fait le 8 mars, quand on dit ça, on est là genre, ah, c'est la perte de l'orthographe, etc., mais en fait la langue fait que évoluer, quoi.
Oui, c'est ça, en fait la langue évolue, il faut que tu le comprennes, et dans la période où je suis, ça va, ils parlent français quand même, hormis que les S, ils les écrivent comme des F. Donc en fait, quand tu lis, moi j'aime bien lire comme eux. Alors aux filles, on m'a dit que j'aime bien lire comment ils écrivent.
Tout ça, je fais sur la langue.
Aux filles, alors l'éléphant, c'est super drôle. Et alors qu'en fait, ils disent aussi, hein, mais ils écrivent juste différemment. Et à partir du 18e siècle, ils écrivent vraiment comme nous, quoi.
Ouais.
Il n'y a pas de différence. Ils sont juste, ils écrivent en italique et c'est tout.
C'est ouf. C'est vraiment ouf. En fait, vraiment, je me dis si... Enfin,
si je, enfin c'est fou, enfin genre je, c'est tellement, il y a tellement de choses. Ah non, là
mais...
là.
Mais allez-y, s'il y avait des questions.
Il y a un truc qui, moi en tout cas, me dérange, c'est aujourd'hui dans la manière dont on a appris en fait l'histoire aux gens.
Oui, je suis totalement d'accord. Il y a un problème.
Ça crée une image en fait, comme en fait comme on va dire des personnes qui n'ont regardé que la télévision de leur vie, ils vont se créer une image qui n'est pas celle de la réalité, parce qu'on ne voit pas tout ce qui est erreur, on ne voit pas tout ce qui est, ne serait-ce que du bafouillement à la télé, il n'y en a pas, tu vois. Donc tu dis que ce sont des personnes qui vont avoir un discours très, très linéaire, tout ça, et bah, pareil pour l'histoire, en fait, on a l'impression que ça s'est passé genre...
Oui, c'est ça.
Droite, tu vois.
C'est ça. Alors qu'en fait,
ils n'ont jamais fait d'erreur.
Et puis, oui, il y a peu de fois où on remet en cause l'histoire, en fait.
C'est ça, il y a peu de fois qu'on remet en cause l'histoire, et selon aussi, il y a des mauvais historiens, je trouve, qui, selon leurs propres avis politiques, vont dire complètement le contraire. Par exemple, Robespierre, il y a tout et n'importe quoi. Les gens de droite, ils vont dire que c'est un monstre, et les gens de gauche, ils vont dire qu'il est merveilleux. Il faut faire un juste milieu. Faut vraiment lire, faut relire les sources, je pense qu'il est nécessaire de les relire et voir vraiment quel est le personnage, parce qu'au final, on ne sait pas, et selon l'établissement où vous êtes, le professeur ne va pas dire la même chose. Et je trouve ça un peu triste, mais c'est parce qu'il faut retravailler, l'histoire doit toujours être mise en question. Après, il y a des choses, bien sûr, qui ont existé. Hein. Oui. Je ne suis pas du tout négationniste. Les camps d'extermination, je vous jure que ça existait. On a des sources, malheureusement. J'aimerais bien que ce soit autrement, mais non. Mais il ne faut juste pas avoir un avis de valeur, en fait. C'est ça qui est difficile à faire. Et pareil, si vous ne connaissez pas trop l'histoire, mais que vous voulez vous y intéresser, bah, par exemple, Stéphane Bern, ce n'est pas trop, trop mal. Mais alors, prenez pas...
Je l'adore.
Mais prenez pas, par contre... Mais prenez pas... Tout ce qui dit que c'est parfaitement... par exemple, moi, je me suis énervée sur mon sujet, mais voilà, parce qu'il faut connaître le sujet. Quand ils disent « Ouais, alors Louis XIV, tout de suite, il a mis un éléphant, une licorne !» Non, ils ont vraiment pas une licorne, mais il a dit « Ouais, ils ont mis une girafe !» Non, les gars, pas la girafe. La girafe, elle arrivait 200 ans après. Elle arrivait en 1827, s'il vous plaît, quoi. Non, la première girafe. « Ouais, alors là, il a mis des otaries qui dansent !» Mais c'est presque ça, en fait. Ils disent les grandes lignes. Ils disent « Bon, il a mis plein d'essioles, mais en fait, ils ont pas vérifié quels animaux il y avait. » Donc forcément, moi, ça m'énerve. Mais
oui, en fait, c'est ça. C'est quand
c'est
toi, t'es.
Sujet voilà, aussi, c'est ça. C'est mon ça. Sujet. Donc,
quand t'es expert sur un sujet et qu'il y a des gens qui le vulgarisent, c'est toujours un peu compliqué.
Voilà, c'est ça. Mais c'est normal, en fait. Il faut bien vulgariser pour que l'histoire publique, ça soit ouvert à tout le monde. En fait, c'est totalement logique. Et l'histoire académique, c'est très compliqué à faire. Par exemple, un mot tout simple, j'ai mis à un moment donné dans mon mémoire au début zoologie. Et mon prof, je comprenais pas pourquoi il m'a tout rayé. Il m'a dit « c'est mauvais ». J'ai dit « mais pourquoi ?» Mais parce que la zoologie, le mot zoologie, ça apparaît au 19e siècle. Pourquoi tu en parles au 17e ? Je dis « ah d'accord, donc du coup c'est complètement anachronique ». Il me dit « bah oui, tu enlèves tout ». Ah,
ok.
Bon, bah d'accord. En fait, il faut vraiment savoir quels mots aussi ont été inventés à quel moment.
Est-ce que tu dois écrire « oiseau » au Y ?
Alors si je cite un gars, il faut que j'écrive comme lui.
D'accord.
Ça me fait vraiment rire parce que du coup mon Word il panique, il dit non mais tu écris trop mal, tout est rouge, non mais c'est pas possible.
Ouais. En tout cas très intéressant, Margot. Ouais,
super intéressant,
vraiment. C'était passionnant, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point et on a été absorbé par.
Si vous avez aimé l'histoire,
par
si
j'ai ton pu... sujet, ton toutes tes anecdotes et il y a des gens qui disaient elle peut revenir quand. Écoutez quand elle veut, voilà. C'était vraiment très cool et écoutez il est déjà 22h43,
ah oui.
Chers amis.
Oui. Ça passe super vite.
Ainsi, voilà, je pense qu'il est temps de clôturer cette émission. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de vos trucs que vous aimez en ce moment et de manière générale pour toute la vie, je pense. Et n'oubliez pas, vous pouvez réécouter dès demain ce live, donc en replay et en podcast sur SoundCloud et sur toutes les applications de podcast pour trouver les liens pour s'inscrire au podcast Mademoiselle. Vous allez sur mmz.li/madpodcast, donc mad comme mademoiselle, et plus loin podcast, sans S, voilà.
Plus loin ou collé ? Parce que là, t'as dit plus loin.
Ah, collé, pardon. Enfin, après, c'est ça que je voulais dire, Mad Podcast, c'est tout attaché parce que c'est un lien, une URL, du coup, il n'y a pas d'espace. Voilà. Je sens que tu me titilles sur les... sur
les trucs de 1. Hein.
Bon. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y a Arnaud qui disait, soi-disant, tu ne peux pas écrire 198 pages. Combien de pages de code tu écris dans ta vie ?
Oui, c'est vrai.
Hein ?
Bah, je passe plus de temps à réfléchir qu'à coder.
Ça, c'est normal.
Genre, ouais, en même temps, j'avoue que c'est pas du tout la réponse à la question qu'on m'a posée.
Je suis peut-être rassurée, moi aussi.
Non, si j'en ai écrit beaucoup du code, mais ouais, c'est une question de passion, en fait, t'avais raison.
Eh oui. Bah voilà, écoutez, merci à tous, merci de nous avoir suivis sur le chat. Vous étiez tous très passionnés, donc c'était chouette. Il y a vraiment des gens qui disent c'était super, 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 super. Diane, Je suis très heureuse que tu aies trouvé cette émission super. On se quitte en écoutant une reprise de Radioactive de Madeleine Bailey. J'espère que je prononce bien son nom. Ciao tout le monde.
Salut.
Salut.
Ash and dust, I wipe my brow and I sweat my eyes, breathing in the chemicals. Oh, I'm breaking in, shaping up, then checking out other prison bars. So this is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I feel it in my bones enough to make my system. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 I'm radioactive, radioactive. Oh, 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 I'm radioactive, radioactive. I raise my flag, I don my clothes, set to revolution. I suppose we'll paint it red to fit right in. Oh, I'm breaking in, shaping up, then checking out of the prison bars. So this is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I feel it in my bones enough to make my system blow. Welcome to the welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 I'm radioactive, radioactive. Oh, 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 I'm radioactive, radioactive. All systems go. Sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside, I'm waking up. I feel it in my bones enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 I'm radioactive, radioactive. Oh, 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 I'm radioactive, radioactive.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.